106.9, Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Voici Patrick Lagacé.
C'est des hasards comme ça. Salut Patrick.
Salut Catherine.
Patrick, juste une petite question. Je sais que, bon, parce que nous autres, cette année, là, en Mauricie, centre du Québec, puis particulièrement en Mauricie, les nids de poules ont bat des records, OK? Oui. C'est épouvantable. Bon, moi, j'ai habité Montréal 5 ans, je l'ai vécu. Je sais que vous autres, c'est à peu près d'année en année, mais nous, cette année, c'est au-delà du nid de poules. Il y a des gens qui brisent leur véhicule. Vous autres, c'est-tu pire que les autres années où c'est stable?
Ben écoute, je vais te dire que c'est pas le fun.
OK.
Il y en a partout. Faut faire du slalom. Mais tu sais, en fin de semaine, je suis allé dans les Laurentides, puis ça ressemble un peu à ça aussi. Hein.
Oui.
Après ça, est-ce que c'est pire qu'avant? Bonne question, Catherine, parce que c'est quoi l'indice de référence, tu comprends? Je le sais pas. Mais c'est sûr et certain que dans un pays où une semaine, il peut faire moins 30, puis après ça, ça monte à 5 en hiver, c'est sûr que l'asphalte va craquer. T'sais.
Ouais.
Moi, je suis pas un spécialiste en asphalte, mais puis c'est facile de dire, si c'était mieux construit, si c'était mieux conçu. Oui, il y a ça, mais aussi le fait que, tu sais, la nature est dure ici.
Ouais.
Comme je te dis, l'asphalte craque, l'eau rentre dedans, ça regèle.
Ouais.
Fait que qu'est-ce qui arrive quand ça gèle? Ben le volume prend de l'expansion puis ça pète. Fait que ça là-dessus, là, ça va toujours être plus difficile que d'avoir des routes aussi belles que dans le sud des États-Unis.
Oui, absolument.
Fait que je te signale que, pour ce que ça vaut, plein d'anecdotes dans mes fils Facebook et autres des médias de gens qui ont crevé des pneus. Il y a un journaliste sportif, là, Mika Guerrier, de Radio-Canada, je voyais passer son fil Facebook là, hier, 5e pneu crevé cette année. Fait que, je pense vraiment qu'il faut faire du slalom en ville. Je sais pas si ça doit être comme ça
c'est comme
à Trois-Rivières aussi.
Hein? Ah, Trois-Rivières, puis moi j'emprunte beaucoup Shawinigan. Là, je te le dis, ce n'est que ça. c'est du slalom. Le terme est bien choisi.
Faut aller moins vite.
Faut aller moins vite. Deux choses ce matin, notamment ce texte de Denis Lessard, bilan dévastateur pour les libéraux.
Ouais.
Évidemment, le Parti libéral a connu sa pire défaite électorale. Le bilan, finalement, les militants, les gens, ils disent quoi? Ils mettent le doigt sur quoi?
Bien, les militants blâment le leadership, blâment les gens qui étaient responsables de la campagne. Ce qui sort du papier de Denis, c'est que c'est comme si les libéraux ne savaient pas qu'il allait avoir une élection le 1er octobre. Et évidemment, c'est ironique parce qu'on est dans un système maintenant d'élection à date fixe. Et tu sais, on cite le fait que, bon, les organisations locales avaient été mal préparées, mais aussi qu'un des organisateurs de la campagne, quelques semaines avant la campagne, était en vacances, je ne sais pas trop où, je pense que c'est au Portugal. Écoute, en politique, là, tout le monde comprend que quand il y a une élection, ben tout le parti devient mobilisé, tu comprends? Et ça n'a pas l'air d'être ce qui s'est passé l'année passée.
Mais non, écoute, le directeur du Parti libéral est en vacances au Costa Rica.
Oui.
Il faisait des meetings au téléphone. Qu'est-ce que tu fais?
Attends. Ça, le meeting au téléphone, c'est après, si je ne me trompe
c'est après.
Pas.
Okay? Oui,
c'est dans le debriefing.
Oui,
mais
tu as
un autre directeur qui était important dans la campagne, qui, lui, quelques semaines avant la campagne, était en voyage au Portugal.
Oui.
Bon, écoute, tout le monde comprend que tu as des considérations familiales, les dates de vacances de ton conjoint, ta conjointe, les enfants. On comprend tout ça. Mais en politique, il y a un gros spectacle, c'est une fois aux 4 ans.
Ouais.
Et donc, il y a ça, mais pour moi, ça trahit quelque chose peut-être d'un peu plus profond. C'est quoi le Parti libéral? Ça a déjà été une machine à gagner des élections. Ça a déjà été une machine aussi qui était, Catherine, super bonne pour faire la split entre, disons, les intérêts des Québécois majoritaires francophones et aussi les intérêts des communautés qui sont des nouveaux Québécois, hein, des immigrants.
Ouais. Mm-hmm.
Fait que faire la split entre ces deux publics-là, ben le Parti libéral a longtemps été bon. Là, avec toute la question des accommodements raisonnables, des signes religieux, toutes les questions identitaires, la split est devenue un peu plus difficile à faire. Ils n'ont pas été capables de faire élire beaucoup de députés à l'est du Québec. Je pense que Sébastien Proulx à Québec est un des seuls dans l'est
du Québec.
C'est
le seul, je pense.
C'est le seul.
Ouais.
Donc, c'est pour moi, là, le mal, c'est ce que je viens de décrire là. Le symptôme, c'est une campagne qui était mal organisée. Et je pense aussi un chef qui était davantage un intellectuel qu'un politicien.
Oui.
Il n'y a rien de mal à être un intellectuel en politique, mais il faut que tu sois un peu politicien.
Ben oui, puis tu sais, rallier les troupes, M. Couillard, il y avait ses qualités, mais celle-là, je ne suis pas certaine.
Non.
Mais c'est tout ce qui me dérange, c'est que dans ce qu'il raconte, Denis Lessard, puis on en a parlé au début, là, du manque de préparation, des bénévoles, mais aussi des candidats qui n'étaient pas bien formés à faire campagne.
Oui.
En même temps, Patrick, peut-être, mais tu sais, à la CAQ, il y en a pour qui c'était complètement nouveau.
Oui.
Puis il y en a qui ont eu de la misère même à commencer leur mandat. Oui. À la CAQ, il était-tu tant mieux préparé que les libéraux?
Bien, c'est plus facile quand tu as une vague.
Oui,
tu sais, si tu ne sais pas trop comment te tenir sur la planche de surf,
ouais,
c'est une chose. Si tu as une sacrée bonne vague, peut-être qu'avec un peu de chance, tu vas pouvoir surfer sur la vague. Le Parti libéral avait aussi, là, on va se le dire, là, disons, le poids à porter de 15 années presque ininterrompues de pouvoir, 2003 à 2018, avec un petit interlude là, de quoi, 18 mois, là, quand Mme Marois était première ministre.
Ouais.
Ça aussi, ça pèse. Parce que, tu sais, à la fin, là, écoute, les finances publiques étaient bien gérées. L'économie allait bien, elle allait même très bien.
Ouais.
Puis ils ont quand même perdu. Puis on
ouais,
dit que l'économie, c'est souvent, tu sais, le facteur qui guide le choix des gens dans l'urne. Fait que t'as ça, mais t'as 15 ans de pouvoir aussi. T'as 15 ans de décision, de perception contre lesquelles tu dois te battre. À un moment donné, ça devient difficile. Mais est-ce, t'sais, ce parti-là, là, ce qui est inquiétant pour l'avenir, je pense, Catherine, c'est ce parti-là a jamais eu, dans les dernières années, une bonne vie militante. C'est-à-dire, on est capable de fermer les portes, de se dire les choses, etc.
Mm-hmm.
Moi, je reviens souvent à ça. On me dira que ça fait une dizaine d'années, mais quand le Parti libéral était un des seuls organismes, une des seules entités au Québec qui ne voulait pas d'une commission d'enquête sur la construction, il y a un militant des Basses-Laurentides dans la région de Montréal qui a voulu, dans un congrès, là, lancer le débat. Il n'y a eu personne pour seconder sa proposition.
Ouais.
C'était criquet dans l'Assemblée. Parce que, non, mais ça dit quelque chose sur...
C'est parlant.
Ben oui, ça dit quelque chose sur la vigueur de la vie militante.
Ouais.
Et là, ils auraient besoin d'une vie militante. Mais quand ça fait 10, 15 ans, 20 ans que tu n'en as pas eu de vie militante, c'est un peu difficile de t'en inventer une journée.
Ah, c'est clair. Hey, un mot sur Mathieu Bock-Côté qui s'apprête à sortir un livre. Et là-dedans, il parle de la police de la pensée, censure de plus en plus ceux qui ne pensent pas du bon bord. Je te pose la question. Te sens-tu censuré? Est-ce qu'on te demande parfois de te censurer?
Non.
Non?
Non, mais écoute, il n'y a personne qui me dit « dis pas ça ». Mais c'est sûr qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des choses qui ne se disent plus. Est-ce que c'est de la censure ou est-ce que c'est juste d'évoluer avec le temps? T'sais, moi, je me souviens de Pierre Foglia qui a été le meilleur chroniqueur de l'histoire du Québec, qui a longtemps, pendant des décennies, écrit dans la presse.
Ouais.
Mais quand il parlait des Noirs, parfois, il disait « un nègre ». Et c'était affectueux. Il y avait une pensée derrière ça. Aujourd'hui, je ne pense pas que Pierre écrirait ça. Tu comprends?
Non, ben ça passerait pas.
Ça passerait pas.
Non.
Ça passerait plus. Même de sa part, lui qui était vraiment anti-politiquement correct, etc.
Ouais.
Donc, les époques changent. Après ça, moi, je mets le mot « censure » entre guillemets. Ce qu'on a fait à Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire s'agiter suffisamment pour que la police avertisse un libraire qui aura peut-être des problèmes si la librairie est le théâtre d'un débat entre Mathieu Bock-Côté et un philosophe. Ben, est-ce que c'est de la censure? C'est peut-être pas de la censure. Mais c'est une forme d'intimidation. C'est une forme de suppression du débat, très certainement. Et ça, là-dessus, il y a quelque chose de détestable. En même temps, Mathieu ne manque pas de tribune.
Hein? Non.
De Cube Radio
non,
à,
non.
à plus, des tribunes télévisées, une chronique dans le plus gros groupe médiatique au Québec. Donc, il faut prendre censure avec des pincettes, mais c'est pas vrai que c'est sans conséquence. En fin de semaine, je lisais des voix, là, disons, plus à gauche, de la gauche militante. Là.
Mm-hmm.
Et pour eux, il n'y a rien. Là. C'est quoi cette affaire-là, etc. Moi, je trouve ça épouvantable de penser que tu ne pourras pas avoir un débat. Et la droite a ses travers, la droite a ses défauts. Ce que je note de la gauche militante de ce temps-là, là, depuis une dizaine d'années, c'est ses tentatives de tuer le débat parce qu'on n'aime pas ce que tu es, on n'aime pas ce que tu as dit.
Oui, c'est souvent, ça devient personnel. On en fait un cas personnel.
Bien, ça s'inscrit dans un cadre idéologique pour moi. À l'UQAM, il y a des gens là, qui sont quasiment interdits de citer. C'est que si tu y vas, il va y avoir du grabuge parce qu'on a jugé que tu es colonialiste, parce qu'on a jugé que tu es contre l'environnement, par exemple. Fait que il y a des histoires sur les campus où, je sais pas moi, des gens allaient avoir un débat sur les hydrocarbures, puis la personne qui allait parler pour le développement des hydrocarbures, ben n'était pas bienvenue.
Ben, regarde, je vais te donner un exemple, on va terminer là-dessus, Patrick, puis on va s'en reparler, OK, parce que, puis là-dessus, il y a des fois, je pense qu'on sera pas nécessairement d'accord. Mm. Moi, quand Marine Le Pen est venue, puis que personne n'a voulu l'accueillir, puis l'interviewer, là, je vais peut-être te surprendre ce matin, puis je suis pas en train de te dire que je suis en accord avec tout ce qu'elle dit. Moi, là, j'aurais aimé ça l'avoir en entrevue. J'aurais aimé ça lui poser certaines questions.
Mais, et on avait décidé. Elle a fait des entrevues.
Ben pas tant que ça. T'sais, on l'a boycotté beaucoup. J'aime pas ça, moi. J'aurais aimé ça l'entendre. Elle a le droit de dire des choses, bien que parfois ça nous choque. Mais j'ai de la misère avec ça. Patrick.
Regarde, moi, je l'ai interviewé, Marine Le Pen, il y a très longtemps en France. Je pense que quand les journalistes l'interviewent et font leur job de challenger les invités, il n'y a pas de problème. Après ça, les gens ont le droit de s'associer à qui ils veulent.
Absolument.
Tu comprends? Marine Le Pen n'a pas un droit fondamental
non.
à rencontrer le chef de l'opposition du Québec.
Non, je suis bien d'accord.
Et quand tu es dans la classe politique, c'est une autre affaire.
Oui.
Tu comprends?
Oui.
Tu es François Legault, qui est chef de l'opposition, non, qui n'était pas chef de l'opposition, qui était dans l'opposition à l'époque. Peut-être que ça ne te tente pas de te coller sur quelqu'un dont le parti est teinté d'intolérance, pour vrai, là. Je veux dire, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui niait l'Holocauste. Tous les gens qui sont dans le Front National ne sont peut-être pas des racistes, mais c'est drôle, les racistes, ils trouvent que c'est bien le fun, le Front National.
OK, on se laisse là-dessus. C'est dommage qu'on manque de temps. OK, on va s'en reparler. Salut, Patrick. À demain. Bye-bye, Patrick Lagacé, du lundi au jeudi, 7h15.